Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, Claudine Albrecht vous l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas vraiment la fin de la catéchèse. On n'en finit jamais d'être catéchumène. On ne peut pas dire que la quatrième année soit l'année ultime. Il est nécessaire de rappeler que nous n'en finissons jamais de poursuivre notre formation théologique, ni de progresser dans la compréhension de ce que la Bible nous permet de découvrir. Et j'aimerais ce matin mettre cela en évidence à travers cet épisode biblique qui nous permet de prendre conscience que nous avons à apprendre à tout âge. Vous avez entre 4 et 7 ans. Vous êtes à l'éveil à la foi. Publicité gratuite, on recherche des moniteurs d'éveil à la foi pour l'année prochaine. À la fin du culte, les propositions sont les bienvenues. Vous avez entre 4 et 7 ans, c'est le moment de découvrir les histoires de la Bible, les personnages qui la peuplent. C'est le moment de découvrir que le premier roi d'Israël, le premier Messie aussi, s'appelle Saül, qu'il y a un berger qui s'appelle David. Il est jeune et il est petit à côté de ce géant Goliath. Dans cet épisode, on se souviendra qu'il est question de bataille, que le vainqueur n'est pas forcément le plus grand, le plus armé. On se souviendra, avant même d'avoir lu le Cid, que la valeur n'attend pas le nombre des années. Éventuellement, on se souviendra de cet épisode quand on sera plus tard en vacances devant la statue David de Michel-Ange. Mais il sera plus utile de se souvenir de ce passage et de le relire quand on sera dans une situation finalement analogue. Plus tard. Plus tard, c'est déjà entre 8 et 11 ans. Là, vous êtes à l'école biblique. On recherche aussi des leaders pour l'école biblique. C'est le temps, je dirais, de l'éducation sentimentale. On y rencontre la peur du peuple. La défaite est proche. On y rencontre le courage de David. La victoire est proche. On y rencontre l'arrogance, l'orgueil, le mépris de Goliath. La défaite est proche. On essaie de regarder de près l'attitude des uns et des autres. Et c'est utile pour comprendre comment fonctionne la vie. Cette vie qui est encore même assez étrange quand on a entre 8 et 11 ans. Comme pour les contes de Grimm, nous pouvons dire que cette histoire et les autres histoires de la Bible ont une dimension symbolique. Ce sont des histoires qui établissent une sorte de cartographie de la vie pour repérer quels sont les points d'appui disponibles, quelles sont les zones faibles, dangereuses. Les points d'appui, ici, c'est l'expérience de David. Lui qui a été berger peut utiliser l'expérience qu'il a acquise, qui a nourri sa confiance, sa foi, pour faire face à de nouveaux défis, de nouveaux dangers, sans craindre, outre mesure, d'être terrassé par ce qu'il y a à affronter. Nous pouvons aussi constater qu'il y a des zones qui ne sont pas de bons points d'appui. La confiance excessive dans la technique, dans les outils technologiques, qui, nous voyons bien avec Goliath, ne remplace ni l'intelligence humaine, ni la force de caractère d'une personne, sa confiance, sa foi. Alors, c'est le temps de se sensibiliser à la vie, l'éducation sentimentale, pour découvrir ce que la vie peut nous réserver. C'est le temps pour apprendre à se réjouir avec Myriam, la sœur de Moïse. C'est le temps d'avoir les entrailles qui frémissent un peu. Quand quelqu'un va mal, par exemple, à l'image de cet homme, ce Samaritain qui va entre Jérusalem et Jéricho. C'est le temps, peut-être aussi, d'avoir quelques regrets, comme Judas Iscariote, qui s'est trompé en voulant sauver Jésus. C'est peut-être aussi le temps de pleurer les morts avec Rachel. Ça peut être le temps de s'étonner, de s'émerveiller, d'être en colère contre l'injustice dans les prophètes. Toute chose qui donne du relief et surtout de l'humanité à la vie. Apprendre à être humain, non pas en étant un automate chrétien programmé, mais en étant capable d'émotion, en étant capable d'être étonné et bouleversé par la vie, d'y être sensible. Nos parents ne nous emmènent pas simplement à Florence pour les vacances. Ils nous font aller aussi à Paris, visiter le musée d'Orsay, pour y voir un autre David, cette fois d'Antonin Mercier. Cette fois, il n'est plus en pierre, il est en bronze. Il n'est plus avec sa fronde, mais avec une épée à la main. C'est d'ailleurs également le cas de David de Donatello. Ah ah ! Vient alors le temps de la critique. C'est le temps de l'adolescence. Vous avez entre 12 et 15 ans. Vous êtes au catéchisme. Là, a priori, on a l'équipe de catéchèse à peu près, au point. Eh bien, voyez-vous, en cette période de l'adolescence, au lieu de ne critiquer que vos parents, critiquez aussi le texte biblique. Ou plus exactement, exercez votre art de la critique sur ce que vous pensez être le texte biblique. C'est là que vous pensez mieux lire. On peut donc regarder de plus près le texte. Et on peut constater qu'il y a quand même quelques bizarreries dans ce texte. Alors, le catéchumène cesse de regarder son pasteur les yeux hagards. Il prend le texte à bras le corps et les yeux dans les yeux du texte. L'intelligence prend ouverte. L'esprit alerte, le catéchumène est disponible pour des interactions fructueuses et puissantes avec ce texte biblique. Le catéchumène découvre qu'au verset 50, David n'a pas d'épée, mais qu'au verset suivant, il va couper la tête de Goliath avec une épée surgie de nulle part, encore mieux qu'Excalibur. Au verset 50, c'est par le seul jus de pierre qu'il tue Goliath. Alors qu'au verset suivant, c'est avec une épée qu'il est censé l'avoir tué. Au verset 55, on indique que Saül ne sait rien de David. Alors que le catéchumène, qui est quand même un esprit sagace, a lu aussi le chapitre 16, le chapitre précédent, où il est considéré comme un vaillant héros et qui va en conséquence devenir le porteur d'armes de Saül. Saül qui le fait demeurer chez lui et qui va envoyer un message au père de David. Alors, quand au chapitre 17, verset 18, on lit que Saül dit « De qui ce jeune homme est-il le fils ?» et que son général répond qu'il l'ignore, il y a de quoi être un peu chatouillé. Le catéchumène, qui est lui-même un vaillant lecteur de la Bible, ne s'arrête pas là. Il observe qu'en 2 Samuel 21, verset 19, il est indiqué que ce n'est pas David qui tue Goliath, mais Elhanan. Il observe aussi qu'il est curieux qu'on rapporte la tête de Goliath à Jérusalem, au verset 54, alors que Jérusalem ne sera conquise par David qu'en 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 9. Le catéchumène comprend que la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas été écrite en une seule fois ni par une seule personne. Quand on dit que les Écritures ont été inspirés par Dieu, c'est pour indiquer que les rédacteurs se sont mis à écrire pour parler de la vie, quand on souhaite vivre cette vie en fonction de Dieu, en fonction de ce qui donne à la vie un caractère absolu. La Bible est une relecture des événements par des personnes qui pensaient la vie face à Dieu, face à ce qui a un caractère ultime. Et s'ils faisaient cela, cette relecture des événements, c'était pour aider leurs contemporains à mieux aborder le présent, à être dotés du bon équipement, comme David, qui se débarrasse de ce qui est inutile, de ce qui va le frayer dans la vie, contrairement à Goliath, qui s'encombre de tout un tas de choses inutiles et qui trébuchera finalement. L'histoire ne s'arrête donc pas là. L'été passe et vous êtes au groupe de jeunes. C'est le temps du lycée. Le moment où le grec, la langue grecque, devient une matière familière pour vous. C'est l'occasion de regarder de côté la traduction grecque dite des Septante. C'est vraiment intéressant parce que c'est l'occasion de découvrir que la plupart des versets que je vous ai lus n'est pas dans la traduction grecque des Septante. C'est plus tard, vers 200 avant Jésus-Christ, que les versets 12 à 31, le verset 50 et les versets 55 à 58 ont probablement été rajoutés pour donner à David encore plus de valeur, pour insister sur sa détermination et sur sa capacité à passer outre les difficultés. La traduction grecque nous montre un état plus ancien du texte biblique que celui que nous avons aujourd'hui et qu'on appelle le texte reçu par l'Église. Ces versets qui ont été ajoutés montrent les tiraillements au sein du peuple, les conflits internes de la société et la manière dont David va les surmonter avec bien peu de choses et sans épée. En vieillissant un peu, le bac en poche, l'été est le bon moment pour faire les lectures qui vous prépareront à l'entrée en faculté de théologie protestante. Pour les recommandations bibliothécaires, la bibliothécaire est justement là. Elle saura vous indiquer le bon livre d'Israël Finkelstein, de Quinn, de Galling et même de Yael Galling. Un bon livre d'archéologie donc pour découvrir que la description de l'armement de Goliath correspond à celui du hoplite grec. Le hoplite grec. Qui appartenait à l'armée de la 26e dynastie depuis l'époque de Psamétie Ier. Là, nous sommes au 7e siècle. David, c'est plutôt le 10e siècle. Vous voyez un peu ? Il faut quand même que je vous dise qu'il faut faire exception de l'armure des Grecs, qui était un équipement moins utilisé en Grèce qu'au Proche-Orient ancien, et du porte-bouclier qui n'apparaissait pas dans l'iconographie grecque, mais sur les bas-reliefs assyriens. Goliath, le Goliath de la Bible, pourrait donc être une synthèse des guerriers étrangers connus de Juda à partir du 7e siècle, et que l'on trouve également dans l'Iliade, alors que David donc est censé avoir vécu au 10e siècle. C'est un peu comme si on parlait de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en racontant la bataille de Trafalgar. Puis, les jeunes gens que vous êtes sont en passe de participer à leur première élection. Il va falloir voter. Ou peut-être avez-vous envie d'être vous-même candidat à l'élection. Ce texte devient utile pour penser l'organisation politique. Alors, pour s'instruire dans ce domaine, vous lisez notamment le Léviathan de Thomas Hobbes, 17e siècle. Et vous y lirez de quelle manière ce que la Bible décrit peut alimenter la pensée politique. Au chapitre 13, Hobbes théorise, en fait, ce que nous avons lu en 1 Samuel 17, et qui peut nous sembler simplement une gentille histoire anecdotique, mais qui peut fonder une structure politique. Aujourd'hui. Voici ce qui est écrit. La différence d'un homme à un autre n'est pas si considérable qu'un homme puisse de ce chef réclamer pour lui-même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui. En effet, pour ce qui est de la force corporelle, l'homme le plus faible en a assez pour tuer le plus fort, soit par une machination secrète, soit en s'alliant à d'autres qui courent le même danger que lui. Ce que nous dit Hobbes, c'est qu'il est donc impératif d'instituer l'égalité pour éviter la guerre de tous contre tous, pour éviter que l'homme soit un loup pour l'homme, un Goliath pour l'homme. Si le petit David a tué le géant, c'est pour qu'il n'y ait plus de mort, pour que nous ayons bien conscience que nous ne pouvons pas établir un ordre naturel des choses sur une inégalité de principe, car celui que nous pensons être le plus fort peut être terrassé par celui que nous pensons être le plus faible. C'est la raison pour laquelle il faut engager une conversation avec le plus grand nombre, une pentecôte générale, où tout le monde dialogue avec tout le monde pour établir une règle de vie commune, pour établir des lois qui favorisent l'intérêt général. D'autres diraient le bien commun. En prenant les minorités au sérieux, prendre les minorités au sérieux, puisque les minorités sont susceptibles de causer des dommages irréparables à la société. Pour qu'un tel dialogue soit possible entre les citoyens, entre les individus qui veulent former une société ou des gens qui voudraient édifier une église, il faut que ceux-ci possèdent une mémoire plus grande qu'eux-mêmes. C'est ce qui était dit par l'un des catéchumènes tout à l'heure. Il faut posséder une mémoire plus grande que notre seule expérience personnelle pour édifier une société qui sera aussi juste que possible. La Bible est un recueil d'analyses qui ont été reprises et rectifiées au fil des siècles quand de nouvelles expériences permettaient de nouvelles conclusions. L'adulte qui s'interroge sur ce qu'est une société juste et qui constate peut-être une montée de la violence peut se souvenir de l'enfant qu'il était lorsqu'il fréquentait l'éveil et la foi et se souvenir de 1 Samuel 17. Peut-être est-ce ce que fit le sculpteur Antonin Mercier, qui, avec ce David, qui date de 1872, donnait peut-être matière à espérer dans une France qui, en 1870, avait été humiliée par le Goliath venu de l'autre côté du Rhin. L'adulte en question, qui s'interroge sur la société juste et sur la manière de défendre la société, trouvera dans la Bible matière à penser sa propre éthique, son propre comportement, à la manière du théologien Karl Barth, qui, dans l'Église en péril, constatera que la violence et le mensonge politique ne suffisent pas pour asseoir un pouvoir tyrannique. C'est une autre analyse de 1 Samuel 17. La violence et le mensonge politique ne suffisent pas pour asseoir un pouvoir tyrannique. Il faut aussi que le peuple soit lâche et crédule. Car aucun pouvoir n'est assez puissant pour s'établir et se maintenir si le peuple fait acte d'opposition, s'il résiste au nom de Dieu, au nom de ce qui a pour lui un caractère absolu. Cet adulte se plongera donc à nouveau dans ce vieux récit de David et Goliath, où il n'est pas très important de savoir si David a tué ou non Goliath, s'il n'est pas très important de savoir si c'est avec une fronde ou avec une épée, car ce qui compte, c'est d'entendre l'appel divin à être libéré de toute situation difficile, en laissant la lâcheté et la crédulité à d'autres, et en se dotant comme David, du courage d'être et de la foi. Amen.